Bien. On va poursuivre ce soir avec le séminaire école. C'est l'avant-dernière réunion. Pour ce soir, ce qui est au programme, c'est une intervention d'Amari Combre, qui vient de Cahors. Ensuite, Dimitra Colonia, qui est de Paris. Elle ne vient pas de Paris, elle est à Paris. Et puis, on va faire de façon classique. Tu commences avec Dimitra, puis j'ai une ou deux questions, j'espère, pour l'une et pour l'autre, et puis on discute. Donc, Anne-Marie, voilà.
D'accord.
J'ai le micro.
Ah. Ça fonctionne ?
Oui.
Très bien. Donc, j'ai intitulé mon intervention « La sortie est à l'intérieur ». C'est un titre qui me vient de l'exposition récente au Palais de Tokyo de Jean-Michel Alberola. Peut-être certains d'entre vous ont dû la voir. Et ce titre a résonné pour moi avec la question du séminaire. Alors, l'autre derrière ne disait rien. À chaque séance, j'attendais qu'il parle. J'étais persuadée qu'il me cachait quelque chose, qu'il en savait beaucoup plus qu'il ne voulait bien en dire, qu'il n'en pensait pas moins, qu'il avait son idée derrière la tête. Vous avez peut-être reconnu Georges Perec dans « Pensée classée ». Lorsque j'ai été contactée pour participer donc à ce séminaire, la question m'a d'abord paru incongrue. Qu'est-ce qu'un analysant ? Et la première réponse qui m'est venue comme ça, c'est « Bon, c'est celui ou celle, un par-lettre, qui s'analyse avec un psychanalyste. » Bien évidemment, a suivi aussitôt la question « Oui, mais qu'est-ce qui me fait penser qu'un tel ou une telle s'analyse avec moi ?» Et ensuite, desquels de ces sujets qui viennent me rencontrer, puis-je dire que ce sont des analysants ? Donc les premières réponses ont ouvert une infinité de questions, et en particulier celle de savoir par quel bout aborder ce thème. Alors, l'inconscient qui me mène a guidé mes mains vers ma bibliothèque et j'ai ouvert un livre que je n'avais pas repris depuis ma lecture, peu de temps après sa publication et peu de temps avant que j'exerce la psychanalyse. Il s'agit de « Plaidoyer pour une certaine anormalité » de Joyce McDougall. Sans doute la question de la norme ne me paraissait pas évidente pour qualifier un analysant, pas plus qu'une analysante d'ailleurs. Feuilletant tout de même cet ouvrage, sans grande conviction, je suis arrivée à un article dont le titre m'a sauté aux oreilles. L'anti-analysant en analyse. De quoi s'agissait-il donc ? Pourrait-on définir ou du moins préciser ce qu'est un analysant en prenant ce biais non seulement de ce qu'il n'est pas, mais de ce terme anti-analysant. Qu'est-ce qu'elle désignait ainsi et pourquoi le dire en analyse, hein, puisque c'est l'anti-analysant en analyse. Remarquons déjà qu'anti-analysant ne signifie pas d'emblée non-analysant. Hein. La notion d'anti institue du contre, de l'opposé, et donc ici peut-être la dimension de lutte contre les effets que pourrait avoir le fait de se situer comme analysant. Alors Joyce McDougall le nomme ainsi en écho avec l'antimatière, quelque chose qui ne révèle son existence qu'en négatif, une force massive qui empêche la fonction de liaison et donc dans ce cas empêche l'analyse. Tout d'abord je relève qu'elle emploie le mot analysant. Hein, ce qui, même précédé de l'anti, indique déjà la référence à Lacan. Elle le cite d'ailleurs dans son texte à un moment où elle évoque la question de la forclusion. Donc cette référence à Lacan ne lui est pas étrangère. Son article a d'ailleurs été publié en 1972. Et elle avait rencontré Lacan et assisté à ses premiers séminaires, semble-t-il. Mais au moment de la rupture entre Nat et Lacan, elle avait choisi de rester, suivant ainsi son analyste, Marc Schlumberger, avec le premier. Toutefois, l'enseignement de Lacan a continué à l'intéresser, même si, sans aucun doute, elle n'a pas suivi ses dernières élaborations. Dans un entretien en 2001, elle le cite encore à propos de l'anorexie et des addictions. Alors pour en revenir à cet article, elle indique d'entrée que son patient, qu'elle qualifie de bien intentionné et auquel elle reconnaît de la bonne volonté, est rapidement à l'aise dans la situation analytique. Elle précise toutefois, à l'aise dans la situation analytique, mais pas dans le processus analytique. En effet, il accepte les aspects formels, horaires, fréquences, régularité, paiement le dernier jour du mois. Cependant, rien ne se passe. Aucun émoi transférentiel, aucun lien avec des souvenirs d'enfance pourtant présents, peu ou pas d'affect. Le discours, après 5 ans de séance, est le même qu'à la première. Si l'homme dont elle parle se plaint de ses enfants, de sa femme, il n'essaie pas de comprendre leurs raisons et ne se met jamais en question. Pourtant, ces plaintes étaient à la base d'une des raisons qui avait amené Joyce McDougall à l'accepter en analyse. En effet, en plus d'avoir été recommandée par un collègue chevronné qui avait souligné que ce serait un bon cas, il était intelligent, cultivé, issu d'un milieu dans lequel les idées étaient valorisées, y compris la psychanalyse. Mais surtout, il lui avait dit, en évoquant, à propos de l'évocation par sa femme d'un possible divorce, qu'il y avait sûrement chez lui quelque chose qu'il ignorait pour que sa femme veuille le quitter. Donc la demande d'analyse lui avait paru recevable. D'autant qu'il avait des symptômes qu'elle qualifie de névrotiques. Phobie, inhibition, problèmes sexuels passagers, etc. Toutefois, ces symptômes, elle s'est rendue compte peu à peu qu'ils ne l'intéressaient absolument pas. Elle ne relève pas de troubles sur le plan du langage, mais un discours plat et sans nuance, sans imagination ni élaboration fantasmatique. S'y parlait bien des personnes, ce n'était jamais que descriptif, et il n'était pas question de la relation entre ces personnes, pas plus que de sa part, de la moindre tentative de compréhension d'autrui. En fait, dit-elle, il racontait tout ce qu'il croyait devoir dire pour justifier sa demande. Alors pourrions-nous dire que ce qui se passe avec ce patient, c'est qu'il ne lui fait pas la grâce du transfert, hein, ce dont Lacan parle dans la proposition de 67. Je rappelle la citation que tout le monde doit connaître par cœur, hein, au commencement de la psychanalyse et le transfert. Il est par la grâce de celui que nous appellerons à l'orée de ce propos, le psychanalysant. Je remarque que c'est l'analyste qui le nomme psychanalysant, hein, comme en réponse à la grâce qui lui est faite d'être investi du transfert. Si tant est que nous sachions ce que signifie par la grâce. Bon, bien que Lacan, dans le séminaire 16, en effet, nous dit que ça, elle a le rapport le plus étroit avec le désir de l'autre. Ce terme de Lacan m'avait plus d'une fois interrogé, de par sa résonance religieuse, sur laquelle il était difficile de faire l'impasse pour y comprendre quelque chose. Dans son séminaire, Colette Solaire, dans son séminaire Les symptômes de transfert, soulignait la contingence évoquée par cette expression et le fait que l'analyste est à la merci de l'analysant qui lui présente sa souffrance, qui lui présente le signifiant de sa souffrance. Pardon. La référence, bien sûr, renvoie à saint Augustin, souvent évoqué comme le docteur de la grâce, et qui, dans sa controverse avec Pélage, place la grâce comme un don de Dieu inconditionnel. La grâce de Dieu, c'est un mode de relation de Dieu avec l'homme, grâce souveraine, sans laquelle nous ne pouvons rien et qu'il accorde à qui il veut. C'est pour Augustin la condition essentielle et gratuite du salut, mais elle laisse à l'homme son libre arbitre, ne garantissant pas le salut de celui qui, l'ayant reçu, fait un mauvais usage de ce don. Ce dernier aspect, appliqué à l'expérience analytique, résonne avec le versant de la responsabilité de l'analyste. Que fait-il de la grâce qui lui est ainsi accordée? Dans un entretien fin 1974 avec Emilio Granzotto, Lacan énonce que pour faire une bonne analyse, il faut un accord, une affinité entre l'analysant et l'analyste. À travers les mots de l'un, l'autre cherche à se faire une idée de ce dont il s'agit et à trouver, au-delà du symptôme apparent, le nœud difficile de la vérité. Une autre fonction de l'analyste est d'expliquer le sens des mots pour faire comprendre au patient ce qu'il peut attendre de l'analyse. Je cite toujours Lacan. Cette remarque fait écho au fait que notre pratique nage dans cette espèce de précise indication que non seulement les noms, mais simplement les mots ont une portée. Et à la nécessité pour l'analyste, qu'il insiste encore dans le moment de conclure, de se rendre compte de la portée des mots pour son analysant. Alors au cours de cet entretien, son interlocuteur lui faisait remarquer qu'il s'agissait d'un rapport d'extrême confiance. Et Lacan répondait plutôt un échange, dans lequel l'important est que l'un parle et l'autre écoute, même en silence. L'analyste ne pose pas de questions et n'a pas d'idées. Il donne seulement les réponses qu'il veut bien donner aux questions qui suscitent son bon vouloir. Mais, ajoute-t-il, en fin de compte, l'analysant va toujours où l'analyste l'amène. Alors je soulignerai simplement le « qu'il veut bien donner », son bon vouloir et où l'analyste l'amène. Alors est-ce que cela ne fait pas écho à ce qu'il dit dans le séminaire sur l'acte ? Un tel sujet, un sujet défini comme effet de discours, à ce point qu'il fasse l'épreuve de s'y perdre pour s'y retrouver, un tel sujet dont l'exercice est en quelque sorte de se mettre à l'épreuve de sa propre démission. Il parle aussi d'abdication à d'autres moments. Alors, pour en revenir un tout petit peu à Joyce McDougall, devant ce qu'elle considère comme une impasse, elle interroge bien sûr, puisque c'était la tendance à ce moment-là, dans l'école à laquelle elle appartenait, elle interroge son contre-transfert. Elle avoue avoir écrit son article pendant une séance de l'un de ses patients robots, elle les appelle comme ça, Monsieur X, qui l'a fait souffrir avec cette plainte qui ne mène à rien. Il lui raconte un projet de construction de placards et le désintérêt de sa femme à ce sujet. Joyce McDougall s'en désintéresse elle aussi, mais elle s'en sent coupable. Et pourtant, elle ne peut lui dire ce qu'elle pense, c'est-à-dire que ça ne l'intéresse pas, parce qu'elle ne veut pas, dit-elle, laisser glisser le masque de la neutralité bienveillante. Devant l'échec de ses tentatives pour lui proposer des associations, des liens, des interprétations, elle s'interroge. Ne faudrait-il pas l'analyser en face à face ou au bistrot, par exemple ? Alors elle s'épuise, mais elle a une insistance et une détermination à continuer d'être analyste, c'est comme ça qu'elle le dit, à écouter, à s'identifier, à interpréter, et finalement à s'efforcer de trouver des trucs pour mettre en circulation le mouvement analytique. Alors en cela, elle ne prend pas la même position que Margaret Little, à laquelle fait référence Lacan dans le séminaire 10, lorsqu'il dit à celle qui lui fait des réflexions désagréables sur l'aménagement de son bureau, je suppose que vous en souvenez, qu'elle s'en fiche, et ce qui ouvre autrement la position de l'analysante dans la cure. Joyce McDougall conclut ainsi son article. Pourtant, cette réponse ne saurait nous satisfaire. Malgré tout, ces analysants tiennent à leur aventure analytique. Ils tiennent à montrer à leur analyste combien il est inefficace. Et elle met entre parenthèses « bingo ». À titre hypothétique, elle suggère que ses patients s'accrochent à la relation analytique comme noyé à une bouée de sauvetage, sans aucun espoir de gagner la terre. Alors, à quoi s'accroche-t-il donc ? Son idée, c'est que dans la situation analytique, il trouve la confirmation que l'inconscient, qu'une autre scène et qu'une autre façon d'exister sont pensables. Et elle ajoute, du moins, leur analyste le croit. Alors évidemment, la question c'est est-ce qu'on peut la suivre lorsqu'elle qualifie ce sujet d'être un analysant, même anti. Il est vrai que nous recevons des personnes qui viennent nous parler avec constance, qui tiennent à ces rencontres, mais sans que s'enclenche le processus analytique, comme elle le dit. sans imaginer comme elle que cela constitue un lieu où il trouve confirmation de la possibilité de l'inconscient, il se peut que cette possibilité de parole leur permette, sans qu'ils soient toujours psychotiques, de maintenir un certain rapport à la vie et une forme de lien. Alors, est-ce que par rapport à la question de la grâce, il ne reste pas sur le bord, effectivement, ce qui rend impossible l'acte de l'analyste, hein, une rectification subjective qui ne peut pas avoir lieu. Et ça m'évoquait la question qu'avait posée Sophie Pinault à la journée de Toulouse, qui résonne avec des propos de Lacan. L'analysant est celui qui vient causer, alors à tous les sens du terme, et qui parfois cause de l'analyste, en produit un. Pour qu'il y ait de l'analyste, il y faut donc de l'analysant. Mais à quelles conditions se produit-il ? Est-ce au moment où le sujet, non encore analysant, consent à prendre la parole autrement, à remettre au premier plan la langue ? Et ce moment advient-il dans la rencontre transférentielle avec l'analyste ou dans le transfert à la psychanalyse ? Il ne semble pas donc non plus chez le patient de Joyce McDougall qu'il y ait instauration du sujet supposé savoir. Cependant, n'y a-t-il pas une demande ? Une demande de la présence de l'analyste et une demande quant à ses séances, hein, puisque elle lui avait supprimé, je pourrais dire, elle lui avait sucré deux séances hebdomadaires, elle le recevait quatre ou cinq fois, et il insistait pour qu'elle les lui restitue. Donc par ailleurs, il me semble que cette investiture de la grâce se renouvelle dans le cours de l'analyse. Pas pour Joyce McDougall, je me déplace. Il faut bien que dans les moments difficiles de stagnation, d'impasse, quelque chose chez l'analysant se remobilise pour qu'il franchisse les écueils en maintenant, pas sans l'analyste, le vif du transfert. Donc responsabilité de l'analysant quant à son analyse, dont on retrouve des témoignages dans la revue du champ lacanien numéro 11, hein, Lacan, psychanalyste témoignage. Alors, je n'ai pas relevé toutes les choses qui m'avaient frappé, mais c'est quelque chose qui est évoqué, effectivement, par plusieurs. Dans le séminaire L'Envers, Lacan avait posé les différences de position entre l'analysant et l'analyste. Je cite: « J'entends beaucoup parler de discours de la psychanalyse, comme si cela voulait dire quelque chose. » Si nous caractérisons un discours de nous centrer sur ce qui est sa dominante, il y a le discours de l'analyste, et cela ne se confond pas avec le discours du psychanalysant, avec le discours tenu effectivement dans l'expérience analytique. Ce que l'analyste institue comme expérience analytique peut se dire simplement, c'est l'hystérisation du discours. Dans la conférence Le symptôme aux États-Unis, c'est la conférence qui est parue dans Silly 7, à page 42. Il dit « Le discours analytique existe parce que c'est l'analysant qui le tient. » Alors, on peut l'entendre de différentes façons, mais ce qui le tient. Et il rajoute « Heureusement, il a l'heure qui est quelquefois une bonne heure, d'avoir rencontré un analyste. » Ça n'arrive pas toujours, ajoutait-il. Il y a une autre dimension qui tient à l'analysant, c'est qu'il faudrait qu'il accepte d'apprendre. Apprendre à lire, c'est ce que Lacan nous dit dans Encore, mais aussi ce qui se déduit de ce que Lacan évoque dans le symptôme, quand il disait « Il faudrait que l'on ait dans l'analyse, comme je l'ai, le sentiment d'un risque absolu. » Michel Bousséroux, en commentant ce passage, disait « Le risque, en fait, c'est le nœud qui s'anaille en floche, que ses cordes s'embrouillent au point de se continuer les unes dans les autres, faute de n'avoir pas gardé la corde qui fait le support réel du sujet. » C'est ainsi que Lacan en vient à dire que la réponse de l'analyste à l'analysant n'est pas que de donner sens, c'est aussi de faire épissure entre l'imaginaire et le symbolique. Donc elle est aussi de lui apprendre à faire une seconde épissure, de lui apprendre à épicer son symptôme au réel parasite de la jouissance. De plus, un analysant est susceptible de tirer les conséquences de ses dires s'il est engagé dans la psychanalyse. mais il faut parfois beaucoup de temps pour que l'énigme vienne se substituer à la plainte. La manœuvre du transfert est nécessaire pour permettre la rectification subjective. Mais pour cela, bon, je me répète un peu, il faut en effet que l'analysant en ait d'abord fait la grâce à l'analyste. Le passage analysant est attesté lorsque cette réponse de l'inconscient avec la division et l'angoisse éprouvée vient se nouer à l'interprétation de l'analyste. La parole analytique se noue là où se sont croisés le dire de la demande et le dire de l'interprétation. C'est ce que nous disait Marie-Céla Sulbaran à Toulouse le 26 septembre. Ce n'est qu'à cette condition d'entrer dans le discours analytique que l'analysant pourra, de l'intérieur, trouver la sortie. Et Olivier Laralde à Toulouse aussi en disait ceci: réaliser pleinement ce que l'on sait déjà, qu'il n'y a pas grand-chose à attendre, qu'il n'y a même pas à attendre, mais bien plutôt atteindre ce pays, comme dit le Veda, où la satisfaction naît avec le désir, là où les montagnes sont à nouveau des montagnes et les rivières à nouveau des rivières, comme le dit le proverbe zen, ce pays souvent si lointain de l'ici et maintenant. Alors, question subsidiaire, mais peut-être pas si subsidiaire que ça, c'est que si avec chaque cas, on devrait réinventer la psychanalyse, est-ce qu'il ne faut pas aussi repenser à chaque fois ce qu'est un analysant ? Je vous remercie.
Merci.
Un sujet courageux, qui a le choix, qui se sent libre, fut la première idée qui m'est venue à l'esprit pour répondre à la question « qu'est-ce qu'un analysant ?». Comme je voulais m'appliquer à cette tâche avec beaucoup de sérieux, je m'apprêtais à laisser tomber mon idée avec une grande facilité, voire un léger mépris, car, pensais-je, je n'allais pas tout de même prendre en compte la première idée qui me passait par la tête. Quelle drôle d'idée, vu que le thème de notre séminaire porte sur l'analysant, lui qui est censé dire ce qui passe par la tête, en se soumettant à la seule règle fondamentale, celle de l'association libre. Or, l'intérêt de l'association libre est que, justement, libre, elle ne l'est pas. Je cite Lacan, « L'association, il est entendu qu'elle est liée, par des conditions que je désignerai rapidement comme celles du cabinet analytique. » Intriguée dans un deuxième temps, je décidai de retenir mon idée comme hypothèse de travail, en remontant son fil pour découvrir avec quoi elle était attachée. Qu'il faille du courage pour ouvrir la boîte de Pandore, pour s'affronter au réel et vouloir savoir quelque chose de ce réel, c'est certain. Mais ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est plutôt la question du choix, car un sujet qui a le choix, qui se sent libre, même entre guillemets, il a l'air d'aller plutôt bien. Pourquoi serait-il en analyse ? En suivant le fil de mes idées, je mettrai le choix aux antipodes du fatalisme, dans lesquels un sujet peut se trouver au moment où il s'adresse à un psy, analyste, psychothérapeute. Un fatalisme dû à sa souffrance, étant donné qu'il subit ses symptômes, ses impasses, dans lesquels il ne se reconnaît pas et que de ce fait, il croit, il les dispense de toute responsabilité, de toute implication. Je pense que c'est la rencontre avec l'inconscient dans le dispositif analytique, grâce à un analyste qui permet au sujet de sortir du fatalisme, pas d'emblée, ni facilement. Certes, si un sujet s'adresse à un analyste, c'est que l'inconscient il l'a déjà rencontré, il ressent ses effets sur lui, mais il n'en sait rien sur cet inconscient, il ne peut rien en dire. Car avant la rencontre avec un analyste, un sujet peut imaginer qu'il y a un inconscient, le supposer, le soupçonner, le croire, mais c'est seulement dans ces dispositifs, autorisés par l'acte de l'analyste, qu'il peut le déduire, le vérifier. Ainsi, j'ai été amenée à me demander comment un sujet rencontre l'inconscient dans le dispositif analytique. L'analyste, par son silence, son refus de répondre, rompt avec l'idée du dialogue ordinaire auquel le sujet est habitué en marquant un au-delà de la parole. C'est une différence essentielle avec les psychothérapies. Ainsi, pour le sujet qui parle et qui ne reçoit pas de réponse, une nouvelle dimension de sa parole apparaît, un écart se creuse entre ce qu'il pense dire et ce qu'il dit, car le discours du sujet en dit toujours plus que ce qu'il n'en dit. Un espace s'ouvre alors, un espace inaugural, car en dehors de ce dispositif, il ne peut pas être institué. Mon idée débouche sur deux questions à ce niveau. Tout d'abord, comment l'analyste, en refusant de répondre, peut-il être ce partenaire qui a une chance de répondre? Et puis, cet espace inaugural, de quoi s'agit-il? Aussi bien Freud que Lacan mettent les refus, Versagung, au premier plan de l'expérience analytique. Je le cite, « Nous, analystes, nous n'opérons, et qui ne le sait, que dans le registre de la Versagung, et c'est tout le temps. » Ces refus visent tout particulièrement la demande. L'analyste, dans la direction de la cure, doit orienter la place du désir par rapport aux effets de la demande. Autrement dit, en refusant de répondre à la demande, l'analyste refuse de la satisfaire, laissant le champ ouvert pour que le désir du sujet advienne. Le champ du désir, précise Lacan à propos de son graphe du désir, se situe entre la ligne du transfert et celle de la suggestion. Pour maintenir ce champ ouvert, il faut maintenir les deux lignes distinctes. Je le cite, notre opération est justement abstinente ou abstentionniste. Elle consiste à ne jamais ratifier la demande comme telle. Cette abstention, encore qu'elle est essentielle, n'est pas à elle suffisante. Il suffit que le patient soit satisfait sur le plan de la demande pour que la confusion s'établisse irrémédiablement entre la ligne du transfert et la ligne des suggestions. Ce qui veut dire que nous tendons à faire se confondre la ligne de transfert avec la ligne de la demande. Nous sommes donc au principe nocif. Mais le sujet qui arrive en analyse n'est pas d'emblée sous transfert et encore moins en analysant. L'abstention, le refus dont parle Lacan, comme étant essentiel mais pas suffisant, est insuffisant en lui tout seul à faire exister le désir, sans le désir de l'analyste et son acte. Laissé sans réponse, le sujet rencontre l'inconscient par la découverte qu'en parlant il dit autre chose. Et ses symptômes disent quelque chose. Mais quoi ? Leur sens est insu du sujet, qui leur suppose dorénavant un sens caché, un savoir. Ça lui incombe alors de chercher le sens de ses symptômes, de les déchiffrer, et son ignorance, accompagnée du refus de satisfaction de l'analyste, le pousse vers cette quête de savoir. Je ne suis pas là en fin de compte pour son bien, mais pour qu'il aime, disait Lacan. Et nous constatons à quel point ce nouvel amour, dont la psychanalyse, adressé au savoir, est subversif par rapport à l'amour du prochain. L'entrée en analyse est un choix pour le sujet. Il n'est pas obligé de s'y engager. Mais elle ne peut s'instaurer que du psychanalyste, de ses partenaires, qui a une chance de répondre. Non pas par une réponse quelconque, mais par son acte qui crée les conditions, qui autorise la possibilité. C'est par son acte que l'analyste peut donner support et autorisation à la tâche analysante, à ce que Lacan disait « le faire du sujet faisant, mettant le faire du côté analysant et l'acte du côté analyste ». Ainsi, l'acte de l'analyste vise depuis le début le savoir supposé à l'analysant en devenir et pose l'inconscient comme savoir, comme effet de langage. Et c'est dans ce sens que j'entends la phrase de Lacan que l'association libre est liée par des conditions du cabinet analytique. J'aimerais à ce propos...
Peut-être plus lentement.
Ah oui. D'accord, pardon. J'aimerais à ce propos donner l'exemple d'un sujet qui, 3-4 mois après son arrivée, a décidé qu'il pouvait partir car il avait tout dit. La remarque qu'il avait dit tout ce qu'il savait déjà l'a surpris, mais une rupture au niveau du discours est venue plus tard. En continuant à parler, il a fait la remarque qu'il parlait comme ça venait. La réponse que c'est comme ça qu'il pourrait parler de ce qu'il ne savait pas déjà l'a amené à déterrer une phrase très importante que sa mère disait, rentrant ainsi dans le jeu de l'association libre. Si je mets l'accent sur l'importance du refus de réponse au début de la rencontre avec un analyste, c'est parce que ce refus est une rupture saisissante avec les discours dominants dans lesquels baigne le sujet à son arrivée. C'est une rupture avec les savoirs et les valeurs établies, avec tout lien social que le sujet a rencontré jusque-là. Et c'est ce qui distingue fondamentalement l'analyse de tous les types de psychothérapie ou d'autres techniques du bien-être. L'analyste écoute et l'analysant parle. Il s'agit de deux positions qui ne sont guère équivalentes. Ainsi, sans dialogue, pas de partage, pas de réciprocité, pas de complémentarité entre analyste et analysant, pas de complémentarité de parole, seulement disparité. Depuis le début, chaque analyse est un travail de séparation entre le sujet et l'autre. L'analyste ne se positionne pas comme garant, alors que le sujet cherche à se rassurer auprès de lui. Mais même si ces refuges jouent un rôle déterminant au début, qui est un moment décisif, il est nécessaire tout au long de l'analyse. Car si l'analyste refuse de répondre à la demande, c'est parce que ce qui se demande, ce n'est pas ça. Je cite Lacan. N'est-il pas clair que ce dont se fonde le discours de l'analysant, c'est justement ça? Je te demande de me refuser ce que je t'offre parce que ce n'est pas ça. C'est la demande fondamentale. Et c'est celle que, à la négliger, l'analyste fait toujours plus prégnante. Ce n'est pas ça veut dire que dans le désir de toute demande, il n'y a que la requête de l'objet petit a, de l'objet qui viendrait satisfaire la jouissance. Le ça du ce n'est pas ça, c'est l'objet petit a. Or, l'analyste qui occupe cette position de semblant en tant qu'objet A, il fait l'offre de l'objet A à son analysant. Offrir l'objet petit a a une phase paradoxale de refus. C'est une offre de refus, écrit Colette Solaire, car l'objet petit a, qui est l'objet manque, est le seul objet qu'on ne peut pas perdre. Cette offre de l'objet petit a la traduit par la formule « Je refuse de t'offrir ce que tu me demandes parce que ce n'est pas ça ». Mais le « ce n'est pas ça », qui est l'écrit par où se distingue la jouissance obtenue de celle attendue, comme nous dit Lacan, n'est-il pas l'écrit d'un conflit psychique, dirait Freud, l'écrit de la division du sujet? J'emprunte une expression à Colette Solaire qui parle du symptôme comme l'écrit muet du « ce n'est pas ça ». L'accueil du « ce n'est pas ça », du symptôme, n'est pas le même avec un analyste ou avec un psychothérapeute. Le psychothérapeute essaye de le rectifier, le supprimer, de réconforter et rassurer le sujet qui n'attend que ça, en lui conseillant à la place, et d'ailleurs à sa place aussi, un « c'est ça normatif » qui vise à assurer le bien-être du sujet en le maintenant dans le bon sens. Et l'analyste, face au « ce n'est pas ça » du sujet, l'analyste est le seul à pouvoir répondre par un refus, par un « ce n'est pas ça ». On dirait une entente mutuelle entre les deux, mais ce n'est pas ça. Ce serait un malentendu, car c'est loin d'être une réponse symétrique, puisque les deux pensent différemment le destin de ces symptômes. Ainsi, l'analyste n'essaye pas de les suturer, les colmater, il le fait parler, en visant son sens, toujours singulier, jamais commun, et sa jouissance. Autrement dit, il le traite comme une formation de l'inconscient, comme une vérité du sujet, et non pas comme une faute à corriger. D'ailleurs, les sujets en arrivant considèrent ces symptômes, ces impasses, comme des attitudes à faire cesser, puisqu'elles se manifestent contre sa volonté, sans soupçonner dans un premier temps que même si c'est malgré lui, ce n'est pas sans lui. Ainsi, les sujets arrivent avec l'idée de se débarrasser de ces symptômes. Puis ils découvrent qu'ils veulent dire quelque chose et qu'ils pourraient se débarrasser d'eux en les déchiffrant. Mais même s'ils découvrent qu'il y a un savoir caché, il ne sait pas encore que c'est lui qui sait. C'est à la fin qu'il le saura. Il se tourne vers l'analyste et c'est de lui qu'il attend ce savoir. Il découvre la dimension du sujet de l'inconscient alors qu'il connaissait que le sujet de la conscience. Avec la supposition du savoir, le transfert s'installe et avec l'acte dans lequel sont impliqués transfert et interprétation, l'analyste, nous avons vu, autorise la tâche analysante qui comporte une fois faite au sujet supposé savoir, comme disait Lacan. Tout ce qui vient déstabiliser son intention, l'analysant, le prend dans un nouveau contexte en le questionnant et en lui attribuant valeur d'énigme. Ainsi, quand il y a quelque chose qui dépasse son vouloir, par exemple le symptôme, il commence à le questionner à partir de sa vérité et non plus de son intention. Une chasse au sens est lancée par le biais de l'association libre qui marque l'ouverture d'un espace où le sujet cherche le sens. Cet espace, et ainsi nous arrivons à ma deuxième question, est l'espace transférentiel. Lacan prend l'exemple du lapsus pour montrer l'ouverture de cet espace nécessaire à l'opération analytique. Mais chaque formation de l'inconscient, chaque bévue, chaque ratage, comme manifestation symptomatique de l'inconscient, les rêves, les symptômes, l'acte manqué, peut démontrer cette foi faite au sujet supposé savoir. Cet espace transférentiel, Lacan l'écrit « l'esp dans l'aps », c'est-à-dire l'espace dans l'apsus, nouant ainsi l'espace et le temps avec les laps. Cette temporalité du transfert va très bien, il me semble, avec la temporalité du participe présent de l'analysant, qui montre bien le temps qu'il faut pour tout ce work in progress qu'est une analyse arrivée à son terme. D'ailleurs, je ne le trouve pas sans lien avec le thème de notre séminaire de l'année dernière sur la durée des analyses. Dans l'exemple que Lacan prend du lapsus, ce qui vient déstabiliser le discours intentionnel du sujet est un signifiant qui apparaît en surprise, comme un accident, un visiteur qui n'est pas invité. Le sujet ne sait ni d'où il vient, ni ce qu'il vient y faire. C'est un signifiant dont il ignore le sens, et c'est justement ce qui ouvre l'espace où le sujet cherchera le sens de ces signifiants insensés, hors sens, en essayant de les mettre dans un circuit en les liant avec d'autres signifiants. Ce test dans l'APS, alors, est celui de l'association libre avec laquelle de nouveaux sens surgissent. C'est un exercice auquel l'analysant choisit de s'y soumettre. Lacan dit qu'il s'agit d'un choix d'abdication, comme vous disiez, celui de s'éprouver aux effets du langage. C'est en perdant le fil dans l'association libre que nous pouvons attraper le phénomène inconscient. J'ouvre une parenthèse pour donner l'exemple du rêve qui ouvre cet espace de l'association libre à propos d'une analysante qui vient consulter depuis plusieurs mois. Très rapidement, elle a commencé à faire des rêves. Pas seulement à faire des rêves souvent, mais des rêves qu'elle qualifie de très réels, dont de surcroît, elle se souvient, alors qu'avant de venir me voir, quand elle en faisait, elle les oubliait. Elle, qui essaye de maîtriser son récit pour que des surprises inconfortables ne s'échappe pas, qui hésite encore d'accepter que ses problèmes viennent de ses pensées et non pas d'une raison organique, comme elle le souligne elle-même, voilà qu'elle se met à faire des rêves. Des rêves qui arrivent comme des intrus pendant la nuit, dont elle ne peut pas se débarrasser, qu'elle supporte très mal et dont elle se plaint, quasiment en les mettant dans la série de ses autres symptômes. De la même manière qu'au tout début, elle me faisait les bilans de ses symptômes somatiques, d'une séance à l'autre, ça lui arrive maintenant de faire les bilans de ses rêves. Elle dit, embêtée, j'ai encore fait des rêves. Sous-entendu, ça continue. Ou quand elle n'en fait pas, elle dit, ça va, je n'ai pas fait des rêves. Mais ça lui arrive aussi de se plaindre qu'elle ne dort pas, tellement ses rêves la fatiguent et la font travailler. C'est très intéressant comment ses rêves furent la première voie pour cette analysante pour que quelque chose de son récit lui échappe. Pas seulement « je rêve et je ne sais pas ce que ça veut dire », mais avant ça, « je rêve et ça vient d'un endroit dont je n'ai pas la maîtrise ». Ces rêves comme symptômes, c'est dans ce dispositif qui a pu se produire, elle me les adresse, elle aimerait les faire taire et en même temps, ils la font parler. Qu'elle en fasse ou pas, les rêves la font parler, même dans leur absence, ouvrant ainsi le jeu de l'association libre et donc de l'inconscient auquel elle s'y prête malgré ses résistances. L'analysant, dans cet espace d'élaboration, se perd dans la série de ses associations. Il essaye de combiner, de lier les éléments, les signifiants. C'est l'espace de l'historisation. L'analysant construit, il prend la gomme, il efface, il écrit, il fabrique une histoire, une fiction, en essayant de donner sens aux événements subjectifs de sa vie. Il attend la vérité qui délivrera le savoir, mais ce n'est pas de la vérité que le savoir viendra, car elle est toujours médite, même si la vérité peut délivrer l'essence du symptôme et le fantasme qui soutient le désir du sujet. L'analysant dit ce qu'il croit vrai, mais l'analyste sait qu'il ne parle qu'à côté du vrai. Dans l'actualité du transfert, l'analysant essaye de déchiffrer l'essence énigmatique de ses malheurs. Il cherche le sens, mais il attend aussi. Il attend surtout, car ce n'est pas tous les jours qu'une trouvaille arrive. L'attente, écrit Colette Solaire, est le premier affect de l'entrée en analyse et elle est proche de l'espoir. La frustration arrive dans un deuxième temps. quand l'attente bute sur la déception quant à ce qui est obtenu. L'attente est une attente que le savoir supposé par le transfert ne devienne avéré. Pas n'importe quel savoir, le sujet attend un savoir sur ce qui, de son être de désir ou de jouissance, cause les diverses souffrances symptomatiques. Cette attente s'adresse aussi bien au savoir supposé de l'inconscient qu'à l'analyste, le sujet supposé à ce savoir. Celui à qui je suppose le savoir, je l'aime et je le demande donc, outre le savoir, l'amour. L'attente est la modalité temporelle de cette demande. L'analysant dans cet espace cherche le sens et en même temps il jouit sens. Le sens fuit et il ne suffit pas que l'analyste ne réponde pas, car ce serait une quête sans fin et sans effet sur le réel du symptôme et de la jouissance. Le sujet attend le savoir à travers l'interprétation de l'analyste. Avec l'interprétation qui joue sur l'équivoque, l'analyste vise un effet de bascule dans l'effet de sens, vise un trou dans le sens. L'analyste tranche, dit Lacan. Ce qu'il dit est coupure, c'est-à-dire participe de l'écriture à ceci près que pour lui, il équivoque sur l'orthographe. Il écrit différemment, de façon à ce que, de par la grâce de l'orthographe, d'une façon différente d'écrire, il sonne autre chose que ce qui est dit, que ce qui est dit avec l'intention de dire, c'est-à-dire consciemment. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse, même si ce n'est pas mon propos aujourd'hui, pour dire que la tâche analysante ne se termine pas sur l'essai du sens et de la vérité, c'est-à-dire sur l'essai de l'espace du lapsus et de l'association libre. Michel Bousseyrou écrit que l'interprétation, en cassant le fil du signifié, en contredisant le sens, vise la réduction du symptôme au réel hors sens de la jouissance. Là où au début d'une analyse, le sujet ne se reconnaît pas dans ses symptômes, il arrive avec un « ce n'est pas ça », à la fin, il peut partir avec un « c'est ça, c'est moi ». Non pas parce que le symptôme a disparu, comme il l'a espéré au début, mais parce qu'il peut s'y reconnaître, ayant localisé la jouissance de son symptôme comme étant la sienne. Lacan disait que la psychanalyse ne consiste pas à ce qu'on soit libéré de ses symptômes, mais qu'elle consiste à ce qu'on sache pourquoi on en est empêtré. En quoi alors un analysant se sentirait libre, entre guillemets, comme fut le troisième terme de mon idée au départ? Je crois qu'il y a un certain ressenti de liberté, entre guillemets, pour un analysant, à chaque fois qu'un petit pas de séparation s'effectue entre lui et l'autre. À la fin d'une analyse, le sujet allégé par la jouissance mortifère de son symptôme, débarrassé de son assujettissement à un autre, l'analyste inclus, qui ne donne plus aucune garantie, car le sujet ne la cherche plus, il peut dire « ouf », comme disait Rosa Guittard la dernière fois, et sentir, c'est moi qui rajoute, une certaine forme de liberté, toujours entre guillemets. Une certaine liberté peut aussi émaner d'une certaine position de choix. Le choix est une voie, il me semble, qui s'ouvre grâce à l'analyse, et qui permet au sujet empêtré de décider autrement, de choisir, être plus acteur de sa vie, car plus orienté, grâce au savoir acquis, bien que partiel. Le choix concerne l'analyse elle-même, et elle se renouvelle tout au long du chemin. Le choix d'entrer, de poursuivre, et puis le choix d'un ordre éthique qui concerne la position que chaque sujet a à prendre vis-à-vis de ses réels, qu'il découvre à la fin d'une analyse ne pas avoir choisi. Bernard Nominet le rappelait à la discussion de notre séminaire en décembre, aucun choix sur la jouissance de son symptôme. Mais la position que le sujet prend face à cette jouissance, face à ses réels, implique, il me semble, une marge de manœuvre pour lui. C'est dans ce sens que tenir compte de l'impossible, tenir compte qu'il ne peut pas se déprendre du réel, peut être une certaine liberté, en guillemets, liberté, car le sujet n'est pas à la merci de son inconscient, il le vérifie à la fin de l'analyse et peut le sortir définitivement de son fatalisme éventuel. Merci.